Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Dans résistance à l'insuline ». Benjamin Bickman propose un essai de vulgarisation médicale consacré à un mécanisme métabolique souvent réduit dans le débat public au seul diabète de type 2. Son propos est plus large. L'auteur défend l'idée que la diminution de la sensibilité des cellules à l'insuline et la hausse compensatoire de cette hormone constituent un terrain commun à de nombreuses maladies chroniques. L'ouvrage explique le rôle physiologique de l'insuline, les processus par lesquels l'organisme compense une réponse cellulaire insuffisante et les effets possibles de cette dérégulation sur le stockage des graisses, les vaisseaux, le foie ou d'autres organes. Bickman relie ainsi l'insulinorésistance à l'obésité, à l'hypertension et au risque cardiométabolique, tout en examinant ses associations avec d'autres pathologies. Le livre vise également la prévention et l'action alimentation, composition et horaire des repas. Activités musculaires et habitudes de vie y sont présentées comme des leviers centraux. Il s'agit donc moins d'un manuel de régime que d'une lecture organisée autour de la santé métabolique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, L-insulinorésistance comme dérèglement de la réponse cellulaire, le point de départ du livre est une clarification physiologique. L'insuline est une hormone indispensable, notamment parce qu'elle aide certains tissus à utiliser ou à stocker l'énergie après les repas. Le problème ne réside donc pas dans l'existence de l'insuline, mais dans une situation où les cellules répondent moins efficacement à son signal. Pour obtenir une réponse comparable, le pancréas doit alors sécréter davantage d'insuline. Bickman place cette hyperinsulinémie compensatoire au centre de son analyse, car elle peut précéder longtemps une élévation durable de la glycémie. Cette distinction est importante, une glycémie encore normale ne garantit pas nécessairement une régulation métabolique optimale si elle est maintenue au prix d'une production élevé d'insuline. L'auteur cherche ainsi à déplacer le regard du sucre sanguin seul vers l'ensemble du système de régulation énergétique. Il décrit un cercle d'aggravation dans lequel une faible sensibilité à l'insuline entraîne une sécrétion accrue, tandis que les conséquences métaboliques de cet excès peuvent entretenir le trouble. Cette approche donne au lecteur un cadre pour comprendre pourquoi la résistance à l'insuline est souvent discrète au début et pourquoi les seuls symptômes apparents ne suffisent pas toujours à l'identifier. Elle ne remplace toutefois pas une évaluation clinique ni l'interprétation d'analyses biologiques par un professionnel de santé. Deuxièmement, du diabète aux maladies chroniques, une hypothèse unificatrice à examiner avec nuance. La thèse distinctive de Bickman consiste à présenter l'insulinorésistance comme un dénominateur métabolique commun à un large ensemble de maladies chroniques. Le livre ne la limite pas au diabète de type 2, il examine ses liens avec l'accumulation de graisse abdominale, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, certaines atteintes neurologiques, l'infertilité, l'ostéoporose et certains cancers. L'intérêt intellectuel de cette démarche est de faire comprendre qu'un même dysfonctionnement métabolique peut avoir des manifestations différentes selon les tissus et les personnes. Par exemple, la combinaison d'un excès de graisse viscérale, d'inflammation et de dépôts lipidiques dans le foie ou les artères fournit une voie plausible pour comprendre une partie du risque cardiométabolique. Le livre insiste aussi sur les effets de l'insuline sur le stockage énergétique et la croissance cellulaire, afin d'expliquer pourquoi elle peut être étudiée dans des contextes dépassant le diabète. Cette vision globale doit néanmoins être lue avec rigueur. Une association biologique ou épidémiologique ne signifie pas que l'insulinorésistance est l'unique cause de chaque maladie citée. L'âge, la génétique, le tabac, l'alimentation, l'activité physique, les traitements et les conditions sociales interviennent également. La force du livre est de rendre visible un facteur souvent sous-estimé, non de réduire toute médecine à une cause unique. Troisièmement, graisse viscérale. Foie et inflammation dans le cercle métabolique, Bickman accorde une place essentielle à la répartition de la masse grasse, en particulier à la graisse viscérale située autour des organes abdominaux. Son analyse dépasse la simple question du poids corporel. Deux personnes de même poids peuvent avoir des profils métaboliques différents selon la localisation des graisses, leur masse musculaire et leur sensibilité à l'insuline. Dans le cadre présenté par le livre, l'excès d'insuline favorise le stockage des graisses, tandis que l'augmentation du tissu adipeux viscéral participe à un environnement inflammatoire susceptible d'aggraver la dérégulation. Le foie occupe aussi une position stratégique, puisqu'il intervient dans la gestion du glucose et des lipides. Lorsque les mécanismes de stockage et d'utilisation de l'énergie sont perturbés, le risque d'accumulation de graisse dans le foie et de déséquilibre sanguin augmente. Cette articulation entre insuline, tissu adipeux, inflammation et fonction hépatique permet de comprendre pourquoi la prise en charge ne peut se résumer à une comptabilité abstraite des calories. L'auteur privilégie une lecture hormonale et métabolique des habitudes alimentaires. Cela ne signifie pas que l'équilibre énergétique cesse d'exister. mais que la qualité des aliments, leur effet sur l'insuline et le contexte physiologique influencent la faim, le stockage et l'adhésion durable au changement. Le thème aide donc à relier des indicateurs souvent examinés séparément tour de taille, triglycérides, tension artérielle et santé hépatique. Quatrièmement, l'alimentation et le premier repas comme levier de régulation insulinique. L'ouvrage propose d'aborder l'alimentation non seulement selon son apport calorique, mais aussi selon son influence sur la sécrétion d'insuline et sur la fréquence des stimulations métaboliques. Bickman critique ainsi les conseils uniformes qui se limitent à manger moins et bouger plus, sans examiner la nature des aliments ni la manière dont les repas s'intègrent à la physiologie individuelle. Les glucides fortement transformés et les produits très sucrés constituent logiquement un point d'attention, car ils peuvent accroître rapidement la demande en insuline chez de nombreuses personnes. Le livre met également en avant l'importance particulière du premier repas de la journée. Cette idée ne se résume pas à une règle universelle imposant le petit déjeuner ou son absence, elle renvoie à la composition et au contexte du premier apport alimentaire, susceptible d'influencer l'appétit, l'énergie et les choix ultérieurs. L'intérêt de cette perspective est d'encourager l'observation concrète des habitudes plutôt que la recherche d'une solution spectaculaire. Les recommandations alimentaires doivent néanmoins rester compatibles avec les besoins médicaux, culturels et pratiques de chacun. Les personnes traitées pour un diabète, enceintes, atteintes de troubles alimentaires ou suivant une thérapie spécifique ne devraient pas modifier seules leurs horaires ou leurs apports. Le livre fournit un cadre de réflexion sur la réduction de la charge insulinique, mais une stratégie sûre exige une personnalisation, particulièrement en présence d'une maladie diagnostiquée. En dernier lieu, le muscle comme organe métabolique et outil de prévention, l'un des messages pratiques les plus solides de l'ouvrage est le rôle protecteur du muscle. Bickman le présente comme un allié majeur de la sensibilité à l'insuline, car le tissu musculaire participe activement à l'utilisation du glucose et à la gestion de l'énergie. Cette idée corrige une vision de l'exercice limitée à la dépense calorique immédiate ou à la perte de poids. Développer et entretenir la masse musculaire. Par l'activité quotidienne et par des exercices de renforcement adaptés, peut améliorer la capacité du corps à répondre aux signaux métaboliques. Le bénéfice potentiel est particulièrement pertinent dans une société où la sédentarité réduit la sollicitation musculaire, y compris chez des personnes qui ne se considèrent pas comme malades. Le livre associe donc la santé métabolique à des habitudes répétées plutôt qu'à une intervention isolée, bouger régulièrement, préserver la force. Limiter les périodes prolongées d'inactivité et articuler l'exercice avec une alimentation cohérente. Cette approche évite de présenter le sport comme une punition destinée à compenser les repas. Il devient un moyen de modifier le fonctionnement des tissus. Toutefois, l'intensité, le type d'activité et la progression doivent tenir compte de l'âge, du niveau initial, des douleurs et des pathologies existantes. Le point central reste accessible, améliorer la fonction musculaire peut constituer un levier concret dans une stratégie globale de prévention et de prise en charge de l'insulinorésistance. En conclusion, résistance à l'insuline s'adresse en priorité aux lecteurs qui souhaitent comprendre les liens entre alimentation, masse grasse abdominale, activité physique et risques cardiométaboliques. Il peut intéresser les personnes confrontées à une prise de poids persistante, à une hypertension, à des anomalies glycémiques ou lipidiques, à un diabète de type 2 dans leur entourage ou simplement désireuses de mieux lire les mécanismes de leur santé métabolique. Son bénéfice principal est pédagogique. Bickman fournit une grille de lecture centrée sur l'insuline, qui aide à dépasser l'opposition simpliste entre volonté individuelle et calories. Il rappelle notamment l'importance de la réponse hormonale, de la graisse viscérale, de la fonction musculaire et de l'organisation des repas. Par rapport à de nombreux livres de nutrition qui proposent avant tout des menus, des interdits ou une méthode de perte de poids, celui-ci se distingue par son ambition explicative. Il cherche à relier des phénomènes quotidiens à des mécanismes physiologiques et à un ensemble plus vaste de maladies chroniques. Cette force peut aussi devenir sa limite. L'ampleur des liens avancés invite le lecteur à distinguer les facteurs de risque, les associations et les causalités démontrées. L'ouvrage est donc plus utile lorsqu'il est lu comme une synthèse engagée sur un enjeu métabolique majeur, et non comme un substitut à un diagnostic ou à un suivi médical. Il offre des pistes concrètes pour dialoguer avec un soignant et adopter des habitudes progressives, tout en incitant à considérer la prévention comme une démarche durable. Si vous souhaitez soutenir Benjamin Bickman, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.